Henri, donneur de voix numéro 318 de la Bibliothèque Sonore Grenoble-Isère. Extrait de la lettre de confinement numéro 52 d'Olivier Calon. Le mot du dernier jour. Demain. Ah, demain 11 mai. Plus qu'un autre jour, un jour différent. Mélange d'excitation et de crainte, d'envie de liberté et de série de contraintes. Curieusement, pendant longtemps, nos racines latines ont fait que le mot « demain » désigne à la fois le jour d'après et le matin. C'est encore le cas en allemand, où le même mot « morgen » signifie à la fois « demain » et « matin ». Idem en espagnol, avec le mot « mañana ». C'est au XIe siècle que le français a fait la distinction entre les deux sens du mot et que « demain » n'a plus désigné que le jour d'après, avant de prendre aussi, à partir du XVIe siècle, le sens plus large de « futur proche ». Parallèlement, « demain » a donné naissance au terme « lendemain ». L'expression « les lendemains qui chantent » pour désigner un avenir présumé radieux, reprend une formule employée par le résistant Gabriel Péri dans la lettre d'adieu qu'il écrivit à sa femme en 1941 avant d'être fusillé. Beaucoup ont cru à ces lendemains-là qui souvent chantèrent faux. Mais comme l'écrivit Margaret Mitchell dans l'ultime phrase de « Autant en emporte le vent », demain est un autre jour. Alphonse Allais dit « Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain. » La pensée du dernier jour. Fénelon. Il ne faut rien attendre des hommes que de l'ingratitude et les servir néanmoins sans espérer d'intérêt. Le poème du dernier jour. Le cancre de Jacques Prévert. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend, et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Anecdote littéraire. Quelles furent les dernières paroles de Voltaire, 84 ans. Je m'arrêterais de mourir s'il me venait un bon mot ou une bonne idée. Blaise Pascal, 39 ans. Dieu ne m'abandonne jamais. Mais était-ce une affirmation ou une supplique? Bernard de Fontenelle, 100 ans. Il est temps que je m'en aille. Je commençais à voir les choses telles qu'elles sont. Bernardin de Saint-Pierre, 77 ans. Je sens que je quitte la terre, mais non la vie. Goethe, 83 ans. Ouvrez donc les volets. De la lumière, plus de lumière. Alfred de Musset, 47 ans. Dormir, enfin je vais dormir. Jules Verne, 76 ans. Soyez bon. Guillaume Apollinaire, 38 ans. Je veux vivre, j'ai tant à faire. Charles Baudelaire, 46 ans. Non, crénom. Louis Aragon, 85 ans. Je fais ce que je peux. André Gide, 82 ans. Tout est bien. Anecdote historique. À Babylone, on ne plaisantait pas avec l'éducation et le respect dû aux parents. Le code d'Hammurabi, en vigueur autour de 1700 avant Jésus-Christ, précisait « Si un fils frappe son père, on lui coupera la main. » La cellule familiale, base de la vie en société, était placé sous l'autorité du Père Tout-Puissant. Celui-ci pouvait mettre un de ses enfants en gage, le temps pour lui d'honorer une dette. Les enfants devaient assurer le bien-être de leurs parents et les honorer, comme tous les aïeux qui les avaient précédés. Les enfants de l'ancienne Égypte n'étaient pas mieux traités et représentaient une main-d'œuvre à bon marché. Bien sûr, beaucoup mouraient à la naissance ou rapidement après. Les survivants étaient allaités jusqu'à 3 ans, ne portant pour tout vêtement qu'une longue tresse sur le côté droit. Ils ne quittaient guère les épaules de leur mère. Un papyrus retrouvé à Thèbes rappelle les devoirs des enfants. Rends le double de la nourriture que ta mère a donnée, porte-la comme elle t'a portée. Tu as été pour elle une lourde charge, mais elle ne s'est pas lassée. Sa nuque te porta, elle te donna le sein pendant 3 ans. Elle ne fut pas dégoûtée de ta malpropreté et ne se décourage pas. Les petits Athéniens n'étaient pas plus gâtés. Le père avait sur ses enfants, comme sur sa femme, une autorité royale. Ils étaient sa possession, et il était libre de les faire travailler pour lui, de les abandonner, de les vendre. Quant à l'éducation à Sparte, elle était spartiate. Les enfants, têtes rasées et pieds nus, devaient chercher eux-mêmes leur nourriture, lutter contre le froid avec un seul vêtement annuel, suivre un rude entraînement sportif. Alors, même si leur retour en classe sera compliqué, nos chers petits n'auront pas trop à se plaindre.